24. Haletant, Seldon vint s'affaler contre un arbre dont il étreignit le tronc avec la dernière énergie. Il attendait que l'engin volant réapparaisse pour se placer le dos à l'arbre et se cacher de l'autre côté, tel un écureuil. L'arbre était froid. Son écorce était rêche. Il n'avait rien de confortable, mais il lui procurait au moins un abri. Bien sûr, cela risquait d'être insuffisant s'il le recherchait à l'aide d'un détecteur de chaleur, mais d'un autre côté, le tronc glacé pouvait brouiller l'instrument. Sous ses pieds, le sol était compact. Alors même qu'il se cachait et tentait d'apercevoir son poursuivant tout en restant invisible, il ne put s'empêcher de s'interroger sur l'épaisseur de la couche de terreau, sur le temps qu'il lui avait fallu pour s'accumuler, sur le nombre de dômes qui, dans les zones plus chaudes de Trentor, portaient sur leur dos des forêts et sur les systèmes écologiques. Les arbres étaient-ils toujours confinés aux dépressions entre les dômes, laissant les régions plus élevées aux mousses, à l'herbe et aux buissons? Il revit l'appareil. Ce n'était pas une hypernef ni même un jet ordinaire. C'était un vertijet. Il apercevait la vague lueur de la traînée d'ions qui jaillissait aux arêtes de l'hexagone, neutralisant l'attraction gravitationnelle et permettant aux ailes de maintenir l'engin en vol tel un grand oiseau. Ce véhicule était capable de planer au-dessus d'un terrain pour l'explorer. C'étaient les nuages qui l'avaient sauvé. Même s'ils utilisaient des détecteurs de chaleur, ceux-ci ne pourraient que leur indiquer la présence de gens en dessous. Le vertijet devrait tenter de percer le plafond nuageux avant d'espérer savoir combien de personnes se trouvaient là et si l'une ou l'autre était l'individu recherché précisément par les occupants de l'appareil. Le vertijet était plus proche maintenant, mais il ne pouvait pas non plus rester caché. Le grondement des moteurs trahissait sa présence et ses occupants ne pouvaient pas les couper tant qu'ils avaient l'intention de poursuivre leur recherche. Seldon connaissait les vertijets, car on en trouvait sur Helicon comme sur toutes les planètes sans dôme où le ciel était parfois dégagé. Il y avait même des particuliers qui en possédaient. À quoi pouvaient bien servir des vertijets sur Trentor, où toute la vie humaine était cantonnée sous dôme, où la couche nuageuse était basse et quasi perpétuelle, sinon en tant que véhicules gouvernementaux conçus dans un but unique, à récupérer une personne recherchée qui se serait aventuré sur la couverture. Pourquoi pas? Les forces gouvernementales ne pouvaient pénétrer sur le campus, mais Seldon avait pu en sortir. Il se trouvait sur les dômes et peut-être en dehors de toute juridiction locale. Un véhicule impérial avait peut-être le droit de se poser n'importe où sur la couverture pour interroger ou interpeller toute personne qui s'y trouverait. Eumine ne l'en avait pas averti, mais sans doute était-ce une simple omission de sa part. Le vertijet s'était encore rapproché, fouinant comme une bête aveugle qui flaire sa proie. Aurait-il l'idée de scruter ce bouquet d'arbres? Allait-il atterrir et envoyer un ou deux soldats en armes fouiller le taillis? Et dans ce cas, que pouvait-il faire? Il était sans armes, et toute sa souplesse et son agilité lui seraient inutiles face à l'intolérable douleur d'un fouet neuronique. L'engin n'essayait pas d'atterrir, ou bien l'intérêt du bouquet d'arbres leur avait échappé. Ou bien, une idée nouvelle le frappa soudain. Et si ce n'était pas du tout un vaisseau de poursuite, s'il faisait partie de l'expérience météorologique? Des météorologues chercheraient certainement à faire des mesures dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ne faisait-il pas l'idiot en se dissimulant ainsi? Le ciel s'assombrissait. Les nuages s'épaississaient ou, plus vraisemblablement, la nuit était en train de tomber. En plus, le froid gagnait et allait encore s'accentuer. Allait-il rester dehors à se geler sous prétexte que l'apparition d'un vertijet parfaitement inoffensif avait déclenché en lui une paranoïa comme il n'en avait jamais connue? Il avait soudain envie de quitter le couvert du bosquet pour retourner à la station météo. Après tout, comment l'homme que Eumine craignait tant se démerzait-il? Aurait-il su que Seldon se trouverait à cet instant précis sur la couverture, prêt à être cueilli? L'espace d'un instant, l'idée lui parut convaincante et, frissonnant de froid, il sortit de derrière son arbre. Puis il retourna s'y cacher en vitesse lorsque le vaisseau reparut encore plus proche. L'engin n'avait pas un comportement évoquant la recherche scientifique. Il n'avait effectué ni prise d'échantillons, ni mesures, ni évaluation. Mais les reconnaîtrait-il, ces opérations, si elles avaient lieu? Il ignorait quel genre d'instrument de précision embarquait l'appareil et comment il fonctionnait. Si l'équipage procédait effectivement à des travaux météorologiques, il serait peut-être bien en peine de le dire. Néanmoins, pouvait-il courir le risque de se mettre à découvert? Et si, après tout, Demerzel savait qu'il se trouvait sur la couverture parce qu'un de ses agents, à l'université, lui avait transmis l'information? Lizung Randa, ce petit oriental souriant et jovial, lui avait suggéré de monter. Il l'avait fait non sans une certaine insistance, et le sujet ne s'était pas présenté naturellement lors de la conversation. En tout cas, pas assez naturellement. Était-il possible qu'il fût un agent gouvernemental et soit parvenu d'une manière ou d'une autre à prévenir Demerzel? Puis il y avait Legen qui lui avait donné le chandail. Le chandail était bien utile, mais pourquoi Legen ne lui avait-il pas dit plus tôt qu'il lui en faudrait un, ce qui lui aurait permis de prendre le sien? Celui qu'il portait, aurait-il quelques signes distinctifs? Il était d'un violet uniforme, alors que tous les autres cédaient à la mode trentorienne des motifs bariolés. De haut, n'importe quel observateur apercevrait une tache terne en mouvement au milieu d'autres de couleurs vives et reconnaîtrait aussitôt la personne recherchée. Eclosia. Elle était censée monter sur la couverture pour apprendre la météorologie et aider ses collègues. Comment se faisait-il qu'elle ait pu l'aborder, discuter avec lui, puis l'éloigner tranquillement des autres afin de l'isoler et de faciliter ainsi son éventuelle récupération? Dans le même ordre d'idées, que pensait de Thor Svenabili? Elle savait qu'il montait sur la couverture. Elle ne l'avait pas retenu. Elle aurait pu l'accompagner, mais, comme par hasard, elle était occupée. C'était un complot, sans le moindre doute. C'était un complot. Il en était à présent convaincu et ne songeait plus du tout à quitter le couvert des arbres. Il avait les pieds comme des blocs de glace et il battait la semelle sans améliorer la situation. Le Vertijet n'allait-il donc jamais s'en aller? À l'instant même où il pensait cela, le grondement de l'engin monta vers l'aigu et le Vertijet s'éleva pour disparaître dans les nuages. Seldon prêta attentivement l'oreille, à l'affût du moindre son, pour s'assurer qu'il était bien parti. Ensuite, alors même qu'il était sûr de son départ, il se demanda si ce n'était pas une simple astuce pour l'amener à se découvrir. Il resta donc planté derrière son arbre, tandis que les minutes s'écoulaient lentement et que la nuit continuait à tomber. Finalement, quand il sentit qu'il devait prendre le risque de se découvrir ou choisir de geler sur place, il avança d'un pas et quitta précautionneusement l'abri des arbres. Le crépuscule était sombre après tout. Seldon restait indétectable, sauf au détecteur de chaleur. Mais si le problème se posait, il entendrait le Vertijet revenir. Il attendit donc à la lisière des arbres, prêt à retourner se cacher au moindre bruit, une manœuvre qui perdrait d'ailleurs tout intérêt s'il était découvert. Il regarda autour de lui, cherchant à distinguer les météorologues. Ils disposaient sûrement d'un éclairage artificiel, mais rien d'autre ne permettrait de les repérer. Il pouvait encore percevoir les alentours, mais d'ici un quart d'heure, une demi-heure au mieux, il ne verrait plus rien. Sans lumière et avec ce ciel bouché, il ferait noir, complètement noir. Terrifié à la perspective d'être plongé dans l'obscurité totale, Seldon se rendit compte qu'il allait devoir au plus vite retrouver son chemin jusqu'à la vallée qu'il avait suivie, puis revenir sur ses pas. Les bras serrés pour conserver sa propre chaleur, il partit dans ce qu'il estimait être la direction de la vallée entre les dômes. Il pouvait, évidemment, en trouver plus d'une en s'éloignant du bosquet, mais il crut distinguer quelques ronciers aperçus à l'allée et dont les baies semblaient à présent plus noires que rouges vifs. Plus question de traîner. Il était obligé de supposer qu'il ne faisait pas fausse route. Il remonta la vallée le plus vite possible, guidé par sa vue de moins en moins utile et par la végétation sous ses pas. Mais il ne pouvait demeurer éternellement au fond de la vallée. Au départ, il avait franchi le dôme apparemment le plus élevé du secteur et découvert cette dépression qui coupait sa route à angle droit. D'après ses calculs, il devait à présent tourner à droite, puis complètement à gauche, et il se retrouverait sur le chemin du dôme des météorologues. Seldon tourna à gauche et, en levant la tête, il parvint tout juste à distinguer la courbure d'un dôme sur un fond de ciel à peine moins sombre. Ce devait être le bon. Ou bien prenait-il ses désirs pour des réalités? Il n'avait pas le choix. Sans quitter de l'œil le sommet afin de garder à peu près un cap rectiligne, il avança aussi vite qu'il put. Tandis qu'il se rapprochait, le dôme grandissait et il pouvait de moins en moins en distinguer les contours. Bientôt, s'il ne s'était pas trompé, il allait gravir une pente douce et quand il serait parvenu au sommet, il serait en mesure d'apercevoir de l'autre côté les lumières de la station météorologique. Dans ce noir d'encre, il était incapable de voir ce qu'il avait devant les pieds. Tout en regrettant qu'il n'y ait pas quelque étoile pour donner un peu de lumière, il se demanda si cela faisait cet effet d'être aveugle. Il agitait les bras devant lui comme des antennes. Le froid gagnait de minute en minute, et il s'arrêtait de temps en temps pour souffler sur ses doigts et pour les cacher sous les aisselles. Il aurait bien aimé pouvoir faire de même avec ses pieds. Il pensa qu'à présent, s'il se mettait à pleuvoir, ce serait de la neige, ou pire encore, de la neige fondue. Marcher. Marcher. Il n'y avait rien d'autre à faire. Enfin, il eut l'impression qu'il commençait à redescendre, où il fantasmait encore, où il avait effectivement dépassé le sommet du dôme. Il s'arrêta. S'il avait franchi le sommet, il aurait dû distinguer les lumières de la station, apercevoir les lampes des météorologues scintillant et dansant comme des lucioles. Seldon ferma les yeux, comme pour les accoutumer à l'obscurité, puis les rouvrit. Démarche inutile. Le noir était le même qu'il ait les yeux ouverts ou fermés. Peut-être Leggen et les autres étaient-ils partis, remportant leurs lampes et coupant l'éclairage. Ou Seldon avait escaladé un mauvais dôme, ou bien il avait suivi un itinéraire incurvé qu'il avait égaré sur la direction à prendre, ou bien il n'avait pas suivi la bonne vallée en partant du bosquet. Que faire? S'il était tourné dans la mauvaise direction, il y avait une chance pour que la lumière soit visible à gauche ou à droite, et ce n'était pas le cas. S'il avait suivi la mauvaise vallée, il n'avait aucun moyen de regagner le bosquet d'arbres pour emprunter un autre itinéraire. Sa seule chance était de parier qu'il était orienté dans la bonne direction et que la station se trouvait plus ou moins directement en face de lui, mais que les météorologues étaient repartis, le laissant seul dans l'obscurité. Alors, avancer. Les chances de succès étaient peut-être réduites, mais c'était les seules qu'il eut. Il estima qu'il lui avait fallu une demi-heure pour gagner le sommet du dôme depuis la station météo. Il avait effectué une partie du chemin avec Clausia en flânant plus ou moins. À présent, il progressait un peu plus vite dans ces ténèbres oppressantes. Seldon continua d'avancer à pas lourds. Ça aurait été bien d'avoir l'heure. Évidemment, il avait un chrone, mais dans le noir. Il s'arrêta. Il portait un bracelet chrone trentorien qui donnait le temps universel galactique, comme tous les chrones, mais également l'heure locale de Trentor. Le cadran des chrones était normalement lisible dans le noir, afin qu'on puisse lire l'heure dans l'obscurité tranquille d'une chambre à coucher. En tout cas, un chrone héliconien s'éclairait. Pourquoi pas un trentorien? Il consulta son bracelet chrone avec appréhension et effleura le contact d'éclairage du cadran. Celui-ci s'illumina faiblement, lui indiquant qu'il était 18h47. Pour qu'il fasse déjà nuit, Seldon savait qu'on devait être en hiver. Depuis combien de temps avait-on dépassé le solstice? Quel était le degré d'inclinaison axiale? Quelle était la durée de l'année? À quelle distance de l'équateur se trouvait-il en ce moment? Rien ne lui permettait d'avancer des réponses, mais ce qui comptait, c'était que cette étincelle de lumière fût visible. Il n'était pas aveugle. Quelque part, la vague lueur de son bracelet chrone lui rendit espoir. Son moral remonta. Il allait poursuivre sa route dans la même direction. Il continuerait pendant une demi-heure. S'il ne trouvait rien, il insisterait encore 5 minutes. 5 minutes, pas plus. S'il n'y avait toujours rien, il s'arrêterait pour réfléchir. Ça ferait 35 minutes à partir de maintenant. D'ici là, il ne penserait qu'à marcher et se concentrerait sur sa chaleur interne. Il agita les orteils vigoureusement. Il les sentait encore. Il repartit, et la demi-heure s'écoula. Il s'arrêta, puis, hésitant, poursuivit encore 5 minutes. À présent, il lui fallait décider. Il n'y avait toujours rien. Il pouvait aussi bien être nulle part, loin de tout accès au dôme. D'un autre côté, il pouvait se trouver à 3 mètres à gauche ou à droite de la station météo, ou devant. Il pouvait se trouver à deux longueurs de bras de l'ouverture du dôme, laquelle toutefois ne serait pas ouverte. Bon. Et maintenant? Servait-il de crier? Hormis le sifflement du vent, un silence total l'enveloppait. S'il y avait des oiseaux, des bêtes ou des insectes parmi la végétation sur la couverture, ils n'étaient pas là en cette saison, à cette heure-ci ou à cet endroit précis. Le vent continuait à le frigorifier. Peut-être aurait-il dû crier tout le temps. Le son devait porter loin dans l'air froid. Mais y aurait-il quelqu'un pour l'entendre? L'entendrait-on à l'intérieur du dôme? Y avait-il des instruments pour détecter les sons ou les mouvements venus d'en haut? Ne devait-il pas y avoir des sentinelles postées juste à l'intérieur? Tout cela paraissait ridicule. On aurait entendu ses pas, non? Et malgré tout, il s'écria
« À l'aide! À l'aide! Est-ce que quelqu'un m'entend ?»
Son cri était étranglé, à moitié gêné. Ça avait l'air idiot de crier ainsi dans ce vaste néant ténébreux. Mais enfin, il sentait qu'il serait encore plus idiot d'hésiter dans une situation pareille. La panique montait en lui. Il aspira l'air glacé et cria aussi longtemps qu'il put. Nouvelle inspiration et nouveau cri sur un autre ton. Et encore une fois. Seldon s'arrêta de crier, hors d'haleine, et tourna la tête dans tous les sens, bien qu'il n'y eût strictement rien à voir. Il ne parvenait même pas à déceler un écho. Il ne restait rien d'autre à faire qu'à attendre l'aube. Mais combien de temps la nuit durait-elle en cette saison? Et jusqu'où la température allait-elle descendre? Il sentit une imperceptible sensation glacée lui picoter le visage, puis une autre encore, après quelques instants. Une averse de neige fondue commençait à tomber, invisible dans les ténèbres totales. Et nul refuge où s'abriter. Il songea « J'aurais été mieux loti si le vertijet m'avait repéré et ramassé. Je serais peut-être prisonnier en ce moment, mais au moins je serais à l'aise et au chaud. » Ou si Humin n'avait pas mis son grain de sel, il aurait été de retour sur Helicon depuis belle lurette, sous surveillance peut-être, mais à l'aise et au chaud. Pour l'heure, c'était tout ce qu'il désirait, être à l'aise et au chaud. Mais pour l'heure, il ne pouvait qu'attendre. Il s'accroupit, sachant que si longue que fût la nuit, il n'oserait pas dormir. Il retira ses chaussures pour masser ses pieds gelés. Très vite, il se rechaussa. Il savait qu'il allait devoir répéter cette opération et aussi se frotter les mains et les oreilles pendant toute la nuit pour maintenir la circulation. Mais le plus important était de se rappeler qu'il ne devait absolument pas laisser le sommeil le gagner. Sinon, c'était la mort certaine. Et ayant soigneusement réfléchi à la question, il ferma les yeux. Sa tête s'inclina et il s'assoupit sous la neige qui tombait.